Madame, mademoiselle, monsieur, soyez les bienvenus sur Radio Kardec. Heureux de vous retrouver pour cette première émission de l'année 2010. Fidèle au poste, Gisèle de la Fédération Spirit de la province de Liège, notre lectrice du jour, poursuivra avec vous la lecture du livre de la Genèse. Aujourd'hui, elle vous parlera du chapitre 8, traitant les théories de la Terre. Nous terminerons par divers communiqués, ainsi que l'agenda des activités programmées par nos partenaires. À toutes et à tous, nous vous souhaitons une très bonne année 2010 et surtout une bonne écoute. C'est donc avec un grand plaisir que nous cédons la parole à notre sœur Gisèle Évrard pour la suite du livre de la Genèse, chapitre 8, traitant les théories de la Terre et plus particulièrement de la théorie de la projection et celle de la condensation et de l'incrustation, du point 2 à 6.
La Genèse selon le spiritisme, chapitre 8, les théories de la Terre. Théorie de la projection. Point 2, troisièmement. Au temps de Buffon, on ne connaissait encore que les six planètes connues des anciens, Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter et Saturne. Depuis, on en a découvert un grand nombre, dont trois principalement, Junon, Cérès, Pallas, ont leur orbite inclinée de 13, 10 et 34 degrés, ce qui ne s'accorde pas avec l'hypothèse d'un mouvement de projection unique. Quatrièmement, les calculs de Buffon sur le refroidissement sont reconnus complètement inexacts depuis la découverte de la loi du décroissement de la chaleur par M. Fourier. Ce n'est pas 74 000 années qu'il a fallu à la Terre pour arriver à sa température actuelle, mais des millions d'années. Cinquièmement, Buffon n'a considéré que la chaleur centrale du globe sans tenir compte de celle des rayons solaires. Or, il est reconnu aujourd'hui, par des données scientifiques d'une rigoureuse précision fondée sur l'expérience, qu'en raison de l'épaisseur de la croûte terrestre, la chaleur interne du globe n'a, depuis longtemps, qu'une part insignifiante dans la température de la surface extérieure. Les variations que cette atmosphère subit sont périodiques et dues à l'action prépondérante de la chaleur solaire. Voir chapitre 7, numéro 25. L'effet de cette cause étant permanent, tandis que celui de la chaleur centrale est nul ou à peu près, la diminution de celle-ci ne peut apporter à la surface de la Terre des modifications sensibles. Pour que la Terre devienne inhabitable par le refroidissement général, il faudrait l'extinction du Soleil. Théorie de la condensation. Point 3. La théorie de la formation de la Terre par la condensation de la matière cosmique est celle qui prévaut aujourd'hui dans la science, comme étant celle qui est le mieux justifiée par l'observation, qui résout le plus grand nombre de difficultés et qui s'appuie, plus que toutes les autres, sur le grand principe de l'unité universelle. C'est celle qui est décrite ci-dessus, chapitre 6, Uranographie générale. Ces deux théories, comme on le voit, aboutissent au même résultat. L'état primitif d'incandescence du globe, la formation d'une croûte solide par le refroidissement, l'existence du feu central et l'apparition de la vie organique dès que la température la rend possible. Elles diffèrent néanmoins par des points essentiels et il est probable que, si Buffon eût vécu de nos jours, il aurait eu d'autres idées. La géologie prend la Terre au point où l'observation directe est possible. Son état antérieur, échappant à l'expérimentation, ne peut être que conjectural. Or, entre deux hypothèses, le bon sens dit qu'il faut choisir celle qui est sanctionnée par la logique et qui concorde le mieux avec les faits observés. Théorie de l'incrustation. Point 4. Nous ne mentionnons cette théorie que pour mémoire, attendu qu'elle n'a rien de scientifique, mais uniquement parce qu'elle a eu quelques retentissements en ces derniers temps et qu'elle a séduit quelques personnes. Elle est résumée dans la lettre suivante. Dieu, selon la Bible, créa le monde en 6 jours, 4000 ans avant l'ère chrétienne. Voilà ce que les géologues contestent par l'étude des fossiles et les milliers de caractères incontestables de vétusté qui font remonter l'origine de la Terre à des millions d'années. Et pourtant, l'écriture a dit la vérité et les géologues aussi. Et c'est un simple paysan, remarque M. Michel de Figanière dans le Var, auteur de La clé de la vie, fait la remarque, qui les met d'accord en nous apprenant que notre Terre n'est qu'une planète incrustative fort moderne, composée de matériaux fort anciens. Après l'enlèvement de la planète inconnue, arrivée à maturité ou en harmonie avec celle qui existait à la place que nous occupons aujourd'hui, l'âme de la Terre reçut l'ordre de réunir ses satellites pour former notre globe actuel selon les règles du progrès en tout et pour tout. Quatre de ces astres seulement consentirent à l'association qui leur était proposée. La Lune seule persista dans son autonomie, car les globes ont aussi leur libre arbitre. Pour procéder à cette fusion, l'âme de la Terre dirigea vers les satellites un rayon magnétique attractif qui cataleptisa tout leur mobilier végétal, animal et hominal qu'ils apportèrent à la communauté. L'opération n'eut pour témoin que l'âme de la Terre et les grands messagers célestes qui l'aidèrent dans ce grand œuvre, en ouvrant ses globes pour mettre leurs entrailles en commun. La soudure opérée, les eaux s'écoulèrent dans les vies laissées par l'absence de la Lune. Les atmosphères se confondirent et le réveil ou la résurrection des germes cataleptisés commença. L'homme fut tiré en dernier lieu de son état d'hypnotisme et se vit entouré de la végétation luxuriante du paradis terrestre et des animaux qui paissaient en paix autour de lui. Tout cela pouvait se faire en 6 jours avec des ouvriers aussi puissants que ceux que Dieu avait chargés de cette besogne. La planète Asie nous apporta la race jaune, la plus anciennement civilisée. L'Afrique, la race noire. L'Europe, la race blanche, et l'Amérique, la race rouge. La Lune nous eût peut-être apporté la race verte ou bleue. Ainsi, certains animaux dont on ne trouve que les débris n'auraient jamais vécu sur notre Terre actuelle, mais auraient été apportés d'autres mondes disloqués par la vieillesse. Les fossiles que l'on rencontre dans des climats où ils n'auraient pu exister ici-bas vivaient sans doute dans les zones bien différentes, sur les globes où ils sont nés. Tels débris se trouvent au pôle chez nous, qui vivaient à l'équateur chez eux. Point 5. Cette théorie a contre elle les données les plus positives de la science expérimentale, outre qu'elle laisse tout entière la question d'origine qu'elle prétend résoudre. Elle dit bien comment la Terre se serait formée, mais elle ne dit pas comment se sont formés les quatre mondes réunis pour la constituer. Si les choses s'étaient passées ainsi, comment se ferait-il qu'on ne trouve nulle part les traces de ces immenses soudures allant jusqu'aux entrailles du globe? Chacun de ces mondes apportant ses matériaux propres, l'Asie, l'Afrique, l'Europe, l'Amérique, aurait chacune une géologie particulière différente, ce qui n'est pas. On voit au contraire d'abord le noyau granitique uniforme d'une composition homogène dans toutes les parties du globe, sans solution de continuité. Puis, les couches géologiques de même formation, identiques dans leur constitution, partout superposées dans le même ordre, se continuant sans interruption d'un côté à l'autre des mers, de l'Europe à l'Asie, à l'Afrique, à l'Amérique et réciproquement. Ces couches, témoins des transformations du globe, attestent que ces transformations se sont accomplies sur toute sa surface et non sur une partie. Elles nous montrent les périodes d'apparition, d'existence et de disparition des mêmes espèces animales et végétales, également dans les différentes parties du monde. La faune et la flore de ces périodes reculées marchant partout simultanément sous l'influence d'une température uniforme, changeant partout de caractère à mesure que la température se modifie. Un tel état de choses est inconciliable avec la formation de la Terre par l'adjonction de plusieurs mondes différents. On se demande d'ailleurs ce que serait devenue la mer qui occupe le vide laissé par la lune, si celle-ci n'eût pas mis de mauvaise volonté à se réunir avec ses sœurs. Ce qu'il adviendrait de la terre actuelle si un jour la lune avait la fantaisie de venir prendre sa place et d'en expulser la mer. Point 6. Ce système a séduit quelques personnes parce qu'il semblait expliquer la présence de différentes races d'hommes sur la terre et leur localisation. Mais puisque ces races ont pu germer sur des mondes séparés, pourquoi n'auraient-elles pu le faire sur des points divers d'un même globe? C'est vouloir résoudre une difficulté par une difficulté bien plus grande. En effet, avec quelque rapidité et quelque dextérité que soit faite l'opération, cette adjonction n'a pu se faire sans secousse violente. Plus elle a été rapide, plus les cataclysmes ont dû être désastreux. Il semble donc impossible que des êtres simplement endormis du sommeil cataleptique aient pu y résister, pour se réveiller ensuite tranquillement. Si ce n'était que des germes, en quoi consistait-il ? Comment des êtres tout formés auraient-ils été réduits à l'état de germes ? Il resterait toujours la question de savoir comment ces germes se sont développés à nouveau. Ce serait encore la terre formée par voie miraculeuse, mais par un autre procédé moins poétique et moins grandiose que celui de la Genèse biblique, tandis que les lois naturelles donnent de sa formation une explication bien autrement complète et surtout plus rationnelle déduite de l'observation. Remarque. Quand un pareil système se lie à toute une cosmogonie, on se demande sur quelle base rationnelle peut reposer le reste. La concordance que l'on prétend établir par ce système entre la Genèse biblique et la science est tout à fait illusoire puisqu'il est contredit par la science même. L'auteur de la lettre ci-dessus, homme de grand savoir, un instant séduit par ses théories, en vit bientôt les côtés vulnérables et ne tarda pas à la combattre avec les armes de la science. Fait de la remarque.
Poursuivons notre lecture du jour par le 8e chapitre de la Genèse, traitant de l'âme de la terre, suite point 7.
La Genèse selon le spiritisme, suite du chapitre 8, les théories de la terre. Âme de la terre. Point 7. L'âme de la terre joue un rôle principal dans la théorie de l'incrustation. Voyons si cette idée est mieux fondée. Le développement organique est toujours en rapport avec le développement du principe intellectuel. L'organisme se complète à mesure que les difficultés de l'âme se multiplient. L'échelle organique suit constamment, dans tous les êtres, la progression de l'intelligence depuis le polype jusqu'à l'homme. Il n'en pouvait être autrement, puisqu'il faut à l'âme un instrument approprié à l'importance des fonctions qu'elle doit remplir. Que servirait à l'huître d'avoir l'intelligence du singe sans les organes nécessaires à sa manifestation? Si donc la terre était un être animé, servant de corps à une âme spéciale, en raison même de sa constitution, son âme devrait être encore plus rudimentaire que celle du polype, puisque la terre n'a pas même la vitalité de la plante, tandis que, par le rôle qu'on attribue à cette âme, on en fait un être doué de raison et du libre arbitre le plus complet. Un esprit supérieur, en un mot, ce qui n'est pas rationnel, car jamais esprit n'eût été plus mal partagé et plus emprisonné. L'idée de l'âme de la terre, entendue dans ce sens, doit donc être rangée parmi les conceptions systématiques et chimériques. Par l'âme de la terre, on peut entendre, plus rationnellement, la collectivité des esprits chargé de l'élaboration et de la direction de ces éléments constitutifs, ce qui suppose déjà un certain degré de développement intellectuel. Ou mieux encore, l'esprit auquel est confiée la haute direction des destinées morales et du progrès de ses habitants, mission qui ne peut être dévolue qu'à un être éminemment supérieur en savoir et en sagesse. Dans ce cas, cet esprit n'est pas, à proprement parler, l'âme de la terre, car il n'y est ni incarné ni subordonné à son état matériel. C'est un chef préposé à sa direction, comme un général est préposé à la conduite d'une armée. Un esprit chargé d'une mission aussi importante que celle du gouvernement d'un monde ne saurait avoir de caprices, ou Dieu serait bien imprévoyant de confier l'exécution de ses lois à des êtres capables d'y contrevenir par leur mauvais vouloir. Or, selon la doctrine de l'incrustation, ce serait le mauvais vouloir de l'âme de la Lune qui serait cause que la Terre est restée incomplète. Il y a des idées qui se réfutent d'elles-mêmes. Voir Revue de septembre 1868, page 261. Chapitre 9. Révolution du globe. Révolution générale ou partielle. Point 1. Les périodes géologiques marquent les phases de l'aspect général du globe, par suite de ses transformations. Mais, si l'on en excepte la période diluvienne, qui porte les caractères d'un bouleversement subi, toutes les autres se sont accomplies lentement et sans transition brusque. Pendant tout le temps que les éléments constitutifs du globe ont mis à prendre leur assiette, les changements ont dû être généraux. Une fois la base consolidée, il n'a dû se produire que des modifications partielles à la superficie. Point 2. Outre les révolutions générales, la Terre a éprouvé un grand nombre de perturbations locales qui ont changé l'aspect de certaines contrées. Comme pour les autres, deux causes y ont contribué, le feu et l'eau. Le feu, soit par les éruptions volcaniques qui ont enseveli sous d'épaisses couches de cendres et de lave les terrains environnants, faisant disparaître les villes et leurs habitants, soit par des tremblements de terre, soit par des soulèvements de la croûte solide, refoulant les eaux sur les contrées les plus basses, soit par l'affaissement de cette même croûte dans certains endroits sur une étendue plus ou moins grande, où les eaux se sont précipitées, laissant d'autres terrains à découvert. C'est ainsi que les îles ont surgi au sein de l'océan, tandis que d'autres ont disparu. Que des portions de continents ont été séparées et ont formé des îles, que des bras de mer mis à sec ont réuni des îles au continent. L'eau, soit par l'irruption ou le retrait de la mer sur certaines côtes par des éboulements qui, en arrêtant les cours d'eau, ont formé des lacs, soit par les débordements et les inondations, soit enfin par les atterrissements formés à l'embouchure des fleuves. Ces atterrissements, en refoulant la mer, ont créé de nouvelles contrées. Telle est l'origine du delta du Nil ou Basse-Égypte, du delta du Rhône ou Camargue. Âge des montagnes. Point 3. À l'inspection des terrains déchirés par le soulèvement des montagnes et des couches qui en forment les contreforts, on peut déterminer leur âge géologique. Par âge géologique des montagnes, il ne faut pas entendre le nombre d'années de leur existence, mais la période pendant laquelle elles ont été formées et par suite leur ancienneté relative. Ce serait une erreur de croire que cette ancienneté est en raison de leur élévation ou de leur nature exclusivement granitique, attendu que la masse de granit, en se soulevant, peut avoir perforé et séparé les couches superposées. On a ainsi constaté, par l'observation, que les montagnes des Vosges, de la Bretagne et de la Côte d'Or en France, qui ne sont pas très élevées, appartiennent aux plus anciennes formations. Elles datent de la période de transition et sont antérieures au dépôt houiller. Le Jura s'est formé vers le milieu de la période secondaire. Il est contemporain des reptiles gigantesques. Les Pyrénées se sont formées plus tard, au commencement de la période tertiaire. Le Mont Blanc et le groupe des Alpes occidentales sont postérieurs aux Pyrénées et datent du milieu de la période tertiaire. Les Alpes orientales, qui comprennent les montagnes du Tyrol, sont plus récentes encore, car elles n'ont été formées que vers la fin de la période tertiaire. Quelques montagnes de l'Asie sont même postérieures à la période diluvienne ou lui sont contemporaines. Ces soulèvements ont dû occasionner de grandes perturbations locales et des inondations plus ou moins considérables par le déplacement des eaux, l'interruption et le changement du cours des fleuves. Remarque. Le dernier siècle offre un exemple remarquable d'un phénomène de ce genre. À 6 journées de marche de la ville de Mexico, se trouvait en 1750 une contrée fertile et bien cultivée où croissaient en abondance le riz, le maïs et les bananes. Au mois de juin, d'effroyables tremblements de terre agitèrent le sol, et ces tremblements se renouvelèrent sans cesse pendant 2 mois entiers. Dans la nuit du 28 au 29 septembre, la terre eut une violente convulsion. Un terrain de plusieurs lieues d'étendue se souleva peu à peu et finit par atteindre une hauteur de 500 pieds sur une surface de 10 lieues carrées. Le terrain ondulait comme les vagues de la mer sous le souffle de la tempête. Des milliers de monticules s'élevaient et s'abîmaient tour à tour. Enfin, un gouffre de près de 3 lieues s'ouvrit. De la fumée, du feu, des pierres embrasées, des cendres furent lancées à une hauteur prodigieuse. 6 montagnes surgirent de ce gouffre béant, parmi lesquelles le volcan auquel on a donné le nom de Jorullo s'élève maintenant à 550 mètres au-dessus de l'ancienne plaine. Au moment où commençait l'ébranlement du sol, les 2 rivières de Quitimba et de Rio San Pedro, refluant en arrière, inondèrent toute la plaine occupée aujourd'hui par le Jorullo. Mais, dans le terrain qui montait toujours, un gouffre s'ouvrit et les engloutit. Elles reparurent à l'ouest sur un point très éloigné de leur ancien lit. De Louis Figuier, dans La Terre avant le déluge, page 370. Fait de la remarque. Déluge biblique, point 4. Le déluge biblique, désigné aussi sous le nom de grand déluge asiatique, est un fait dont l'existence ne peut être contestée. Il a dû être occasionné par le soulèvement d'une partie des montagnes de cette contrée, comme celui du Mexique. Ce qui vient à l'appui de cette opinion, c'est l'existence d'une mer intérieure qui s'étendait jadis de la mer Noire à l'océan Boréal, attestée par les observations géologiques. La mer d'Azov, la mer Caspienne, dont les eaux salées, quoique ne communiquant avec aucune autre mer. Le lac Aral et les innombrables lacs répandus dans les immenses plaines de la Tartarie et les steppes de la Russie paraissent être des restes de cette ancienne mer. Lors du soulèvement des montagnes du Caucase, postérieur au déluge universel, une partie de ces eaux fut refoulée au nord vers l'océan Boréal, l'autre au midi vers l'océan Indien. Celles-ci inondèrent et ravagèrent précisément la Mésopotamie et toute la contrée habitée par les ancêtres du peuple hébreu. Quoique ce déluge se soit étendu sur une assez grande surface, un point avéré aujourd'hui, c'est qu'il n'a été que local, qu'il n'a pu être causé par la pluie, car, quelque abondante et continue qu'elle eût été pendant 40 jours, le calcul prouve que la quantité d'eau tombée ne pouvait être assez grande pour couvrir toute la terre jusque par-dessus les plus hautes montagnes. Pour les hommes d'alors, qui ne connaissaient qu'une étendue très bornée de la surface du globe et qui n'avaient aucune idée de sa configuration, dès l'instant que l'inondation avait envahi les pays connus, pour eux ce devait être toute la terre. Si à cette croyance on ajoute la forme imagée et hyperbolique particulière au style oriental, on ne sera pas surpris de l'exagération du récit biblique.
Pour terminer sa lecture du jour, notre sœur Gisèle vous invite à poursuivre le chapitre 9, suite de la révolution du globe et plus particulièrement du déluge biblique des points 5 à 9.2.
La Genèse selon le spiritisme, suite du chapitre 9, Révolution du globe. Déluge biblique, suite. Point 5. Le déluge asiatique est évidemment postérieur à l'apparition de l'homme sur la terre, puisque la mémoire s'en est conservée par la tradition chez tous les peuples de cette partie du monde qui l'ont consacrée dans leur théogonie. Remarque. La légende indienne sur le déluge rapporte, d'après le livre des Védas, que Brahma, transformé en poisson, s'adressa au pieux monarque Vaivaswata. Il lui dit : « Le moment de la dissolution de l'univers est arrivé. Bientôt, tout ce qui existe sur la terre sera détruit. Il faut que tu construises un navire dans lequel tu t'embarqueras après avoir pris avec toi des graines de tous les végétaux. Tu m'attendras sur ce navire et je viendrai à toi ayant sur la tête une corne qui me fera reconnaître. » Le saint obéit. Il construisit un navire, s'y embarqua et il attacha un câble à la corne du poisson. Le navire fut traîné pendant plusieurs années avec une extrême rapidité au milieu des ténèbres d'une tempête effroyable et il aborda enfin au sommet du mont Himawat, entre parenthèses Himalaya. Brahma recommanda ensuite à Vaivaswata de créer tous les êtres et de repeupler la terre. L'analogie de cette légende avec le récit biblique de Noé est frappante. De l'aide, elle avait passé en Égypte, comme une foule d'autres croyances. Or, comme le livre des Védas est antérieur à celui de Moïse, le récit qu'on y trouve du déluge ne peut être une imitation de ce dernier. Il est donc probable que Moïse, qui avait étudié les doctrines des prêtres égyptiens, a puisé le sien parmi eux. Fin de la remarque. Il est également postérieur au grand déluge universel qui a marqué la période géologique actuelle. Et quand on parle d'hommes et d'animaux antédiluviens, cela s'entend de ce premier cataclysme. Révolution périodique. Point 6. Outre son mouvement annuel autour du Soleil, qui produit les saisons, son mouvement de rotation sur elle-même en 24 heures, qui produit le jour et la nuit, la Terre a un troisième mouvement qui s'accomplit en 25 000 ans environ, plus exactement 25 868 ans, et produit le phénomène désigné en astronomie sous le nom de précession des équinoxes, voir chapitre 5, numéro 11. Ce mouvement, qu'il serait impossible d'expliquer en quelques mots, sans figure et sans une démonstration géométrique, consiste dans une sorte de balancement circulaire que l'on a comparé à celui d'une toupie mourante, par suite duquel l'axe de la Terre, changeant d'inclinaison, décrit un double cône dont le sommet est au centre de la Terre, et les bases embrassent la surface circonscrite par les cercles polaires, c'est-à-dire une amplitude de 23 degrés et demi de rayon. Point 7. L'équinoxe est l'instant où le Soleil, passant d'un hémisphère à l'autre, se trouve perpendiculairement sur l'équateur, ce qui arrive deux fois par an, vers le 21 mars quand le Soleil revient dans l'hémisphère boréal et vers le 22 septembre quand il retourne dans l'hémisphère austral. Mais, par suite du changement graduel dans l'obliquité de l'axe, ce qui en amène un dans l'obliquité de l'équateur sur l'écliptique, l'instant de l'équinoxe se trouve chaque année avancé de quelques minutes, exactement 25 minutes 7 secondes. C'est cette avance qui est appelée précession des équinoxes, du latin procedere, marcher en avant, fait de prou, avant et cedere, s'en aller. Ces quelques minutes, à la longue, font des heures, des jours, des mois et des années. Il en résulte que l'équinoxe du printemps, qui arrive maintenant en mars, arrivera dans un temps donné en février, puis en janvier, puis en décembre, et alors le mois de décembre aura la température du mois de mars, et mars celle de juin, et ainsi de suite jusqu'à ce que, revenant au mois de mars, les choses se retrouvent dans l'état actuel, ce qui aura lieu dans 25 868 ans, pour recommencer la même révolution indéfiniment. Remarque. La précession des équinoxes amène un autre changement, celui qui s'opère dans la position des signes du zodiaque. La Terre, tournant autour du Soleil en un an, à mesure qu'elle avance, le Soleil se trouve chaque mois en face d'une nouvelle constellation. Ces constellations sont au nombre de 12, à savoir le Bélier, le Taureau, les Gémeaux, l'Écrevisse, le Lion, la Vierge, la Balance, le Scorpion, le Sagittaire, le Capricorne, le Verseau et les Poissons. On les appelle constellations zodiaques ou signes du zodiaque et elles forment un cercle dans le plan de l'équateur terrestre. Selon le mois de la naissance d'un individu, on disait qu'il était né sous tel signe. De là, les pronostics de l'astrologie. Mais, par suite de la précession des équinoxes, il arrive que les mois ne correspondent plus aux mêmes constellations. Tel qui naît dans le mois de juillet n'est plus dans le signe du lion, mais dans celui de l'écrevisse. Ainsi tombe l'idée superstitieuse attachée à l'influence des signes. Voir chapitre 5, numéro 12. Fin de la remarque. Point 8. Il résulte de ce mouvement conique de l'axe que les pôles de la Terre ne regardent pas constamment les mêmes points du ciel, que l'étoile polaire ne sera pas toujours étoile polaire, que les pôles sont graduellement plus ou moins inclinés vers le soleil et en reçoivent des rayons plus ou moins directs, d'où il suit que l'Islande et la Laponie, par exemple, qui sont sous le cercle polaire, pourront, dans un temps donné, recevoir les rayons solaires comme si elles étaient à la latitude de l'Espagne et de l'Italie, et que, dans la position opposée extrême, l'Espagne et l'Italie pourront avoir la température de l'Islande et de la Laponie, et ainsi de suite à chaque renouvellement de la période de 25 000 ans. Remarque. Le déplacement graduel des lignes isothermales, phénomène reconnu par la science d'une manière aussi positive que le déplacement de la mer, est un fait matériel à l'appui de cette théorie. Fin de la remarque. Point 9. Les conséquences de ce mouvement n'ont pu encore être déterminées avec précision, parce qu'on n'a pu observer qu'une très faible partie de sa révolution. Il n'y a donc à ce sujet que des présomptions, dont quelques-unes ont une certaine probabilité. Ces conséquences sont: premièrement, l'échauffement et le refroidissement alternatif des pôles et par suite la fusion des glaces polaires pendant la moitié de la période de 25 000 ans et leur formation à nouveau pendant l'autre moitié de cette période. D'où il résulterait que les pôles ne seraient point voués à une stérilité perpétuelle, mais jouiraient à tour de rôle des bienfaits de la fertilité. Deuxièmement, le déplacement graduel de la mer qui envahit peu à peu les terres, tandis qu'elle en découvre d'autres, pour les abandonner à nouveau et rentrer dans son ancien lit. Ce mouvement périodique, renouvelé indéfiniment, constituerait une véritable marée universelle de 25 000 ans. La lenteur avec laquelle s'opère ce mouvement de la mer le rend presque imperceptible pour chaque génération. Mais il est sensible au bout de quelques siècles. Il ne peut causer aucun cataclysme subit parce que les hommes se retirent de génération en génération à mesure que la mer avance et ils avancent sur les terres d'où la mer se retire. C'est à cette cause plus que probable que quelques savants attribuent le retrait de la mer sur certaines côtes et son envahissement sur d'autres.
Nous voici arrivés à la séquence réservée aux activités programmées par nos divers partenaires. En Belgique et dans les médias, l'Union Spirit Belge rappelle que le goûter annuel de l'Union est prévu pour le samedi 23 janvier 2010 à 15h. La participation aux frais sera de 4 euros. Celle-ci aura lieu au siège social de l'Union Spirit Belge, 43 rue Maguin à 4000 Liège. Renseignements et inscriptions via le site de l'Union. En France et toujours dans les médias, l'association du chemin propose une conférence sur le thème le magnétisme. Celui-ci aura lieu le 23 janvier 2010 à 14h30 à la salle AEP, numéro 5 rue de l'Artisanat à 69 290 Grézieux-Lavarenne. L'entrée est gratuite. Renseignements en formant depuis la France le 09 50 69 26 10 ou directement sur le site www.le-chemin.org. En Belgique, le vendredi 5 février 2010, à 20h, la Fédération Spirit de la province de Liège organisera une conférence débat autour du thème « Les expériences aux frontières de la mort » ou NDE. et celle-ci aura lieu au siège social de la Fédération, 43 rue Maguin à 4000 Liège. Renseignements via courriel à l'adresse suivante fspl@spirit.be ou via téléphone en formant depuis la Belgique le 04 227 60 76. Communiqué de notre frère Pierre-Étienne G., responsable du centre Le Chemin à Paris et administrateur principal du site du même nom, anciennement Spiritisme et Charité. En effet, Pierre-Étienne nous signale que le site est momentanément inaccessible à la suite d'une attaque malveillante d'un hackers. Il espère pouvoir éliminer cette intrusion et remettre en service le site dans les plus brefs délais. Bonne chance, Pierre-Étienne, et merci pour cette information. Ceci est un appel à la solidarité spirite belge pour Haïti. Vous n'êtes pas sans savoir l'énorme tremblement de terre qui a frappé durement Haïti ces derniers jours et qui a plongé ce pays dans le chaos le plus total. On évoque des dizaines de milliers de victimes, de sans-abri, des habitations et des infrastructures détruites. Le bilan est très lourd. Port-au-Prince, la capitale, est dévastée et privée d'électricité et de communication vers l'extérieur. Les secours s'organisent, mais dans ce pays où 70% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, ce tremblement de terre vient à la suite de nombreuses catastrophes à répétition qui sont un véritable désastre pour la population et le développement de ce pays. Les spirites que nous sommes ne peuvent rester indifférents devant tant de souffrances. Aussi, nous vous invitons à faire preuve de solidarité en envoyant un don, aussi modeste soit-il, sur le compte Haïti Lavi, L-A-V-I, 8x0, 12, trait d'union, 12. Merci pour eux. Avis aux personnes et associations. Vous êtes responsable d'un groupe, d'une association ou simple particulier. Vous connaissez des personnes qui aimeraient en savoir plus sur la philosophie spirit. Vous avez un local, une pièce où vous pouvez nous en renseigner un. Si vous le souhaitez, nous pouvons venir faire une conférence de divulgation dans votre région afin de vous informer sur ce qu'est réellement la philosophie spirit et toutes les valeurs morales qu'elle renferme. Mieux encore, il n'y a pas de groupe spirit dans votre région. Vous avez envie d'en former un. Nous pouvons vous y aider en vous apportant un support didactique et humain pour la formation de celui-ci, même familial. Si vous êtes intéressé, vous pouvez nous contacter par courrier ou courriel à l'adresse suivante Union Spirit Belge, 43 rue Maguin à 4000 Liège ou par courriel usb@spirit.be. Cette émission se termine donc ici. Pour rappel, notre démarche est de mieux faire comprendre le spiritisme. Nous sommes donc à votre disposition pour répondre aux questions que vous vous posez ou que la lecture des ouvrages d'Allan Kardec vous suggère. Vous pouvez également poser ces questions par email, de manière tout à fait anonyme, si vous le souhaitez, à l'adresse radio@spirit.be. Nous y répondrons avec plaisir. Notre répondeur téléphonique, le 00 32 4 227 60 76, est également à votre disposition si vous souhaitez laisser vos questions. Si par contre vous préférez nous écrire, nous répondrons à vos demandes lors d'une de nos prochaines émissions. Vous pouvez nous envoyer votre courrier à l'attention du président de l'Union Spirit Belge, M. Jean-Paul Évrard, 43 rue Maguin à 4000 Liège, Belgique. Merci de votre attention et à bientôt.